Oh, bien.
Mettez pas en bas,
ça sera très bien. Ça sera très bien. Shalom. Ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait pas chaud.
Quand il fait froid, il
fait la. Mais c'est ça. Non, c'est vrai qu'il faisait un peu plus froid la semaine dernière. C'est nakhon. Alors, nous revenons dans notre étude de Sefer Oroth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Et nous sommes toujours dans cette longue piska, piska Echad. Ken, si je ne m'abuse. Non. On est toujours dans la première parade. Non, peut-être on a terminé, je ne sais plus. Non, je crois qu'on a terminé.
Israël et
Triato. Non, le premier paragraphe de Israël ou Triato. Je crois. Ouais, je crois. Hein. Je pense. Je pense bien.
On a fait ça.
Non, tu crois pas?
Non.
Top. Bon, alors très bien. Alors très bien. Alors reprenez page Yutret. On va reprendre. On est toujours dans. On va prendre avec Or Israël. Or Israël, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zoréar, exactement. C'est 8 lignes avant la fin de la page. Ok, donc on est dans le jour dans Israël ou Triato, où en fait, dans ce premier paragraphe, le Rav Kouk nous explique qu'est-ce que ça fait au monde, la résurrection nationale d'Israël. D'accord? Alors, page 18. Allons-y. Si tu as des pages en haut, elles sont marquées en hébreu. Yutret. Alors allons-y. Or Israël, Zoréar veoler, veor. מפעם ומפעם שלך בקרב נשמתו את אילמות גאולתו. La lumière d'Israël commence à se faire voir. N'oubliez pas que le Rav Kouk écrit ces lignes-là au moment où on est à l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on est entre la déclaration Balfour et la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on est mamash baderech et la geoula. Et donc, nous dit le Rav Kouk, la lumière d'Israël commence à faire sortir le bout de son nez. Oler ve'or, oler ve'or mefa'em bekerev nishmato et illemut geulato. C'est-à-dire qu'il non seulement il y a une lumière à l'extérieur, mais il y a aussi une lumière intérieure qui éclaire la neshama du peuple d'Israël. Et c'est ce que veut dire le verset Koach ma'asa v'gid le'amo, la tête la'em nachalat goyim. Ce qu'on avait déjà expliqué longuement.
Pendant qu'il disait ça,
oui.
C'était le début de la Shoah.
Non. Ah non. Non, non, c'était.
Le début, mais qu'est-ce...
Non, attends, deux secondes. Quand quelqu'un écrit quelque chose, 15 ans avant que Hitler y monte au pouvoir, on ne peut pas dire que c'est le début de la Shoah.
Ouais.
Pour moi, c'est pas encore le début de la Shoah. Lorsque Hitler montera au pouvoir, le Rav Kouk écrira un texte.
Là, ça, c'est déjà trop tard.
Oui, mais je veux dire, là, pour l'instant, en 1917, en 1916-17, l'Allemagne, elle n'a même pas encore perdu la guerre, la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas encore eu le traité de Versailles. Donc, on ne peut pas encore dire c'est les prémices de la Shoah. Pour l'instant, l'Allemagne, c'est celle du Kaiser. Il n'y a pas encore du tout de Hitler dans l'histoire. Pour l'instant, Hitler, il n'est que caporal dans l'armée allemande. Ok, donc c'est encore rien du tout à ce moment-là. On ne peut pas encore parler de prémisse de quelque chose.
Il n'a même pas encore écrit son livre Mein Kampf.
Il n'a pas écrit Mein Kampf. Non, mais il est personne à ce moment-là. Il est personne à ce moment-là. Donc c'est pas encore le moment.
Il est commun.
Il est. Oui, aussi.
Il avait franchi des pas d'Israël. Il n'y avait pas de trucs. Mais on parle de
quoi? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Les
troupes américaines.
Oui, alors je sais pas, je peux pas te dire là. J'ai pas le mois exact. Donc je peux pas te dire si c'est exactement truc. Mais le fait est que même si on parle d'avant la Première Guerre mondiale, même si on dit qu'il écrit ça avant la Première Guerre mondiale, de toute façon, il se passe déjà quelque chose ici en Israël. De toute façon, il y a déjà eu énormément de retours, il y a déjà eu Herzl, il y a déjà eu plein de choses. Donc, il se passe quelque chose. D'accord ?
C'est quoi la phrase qu'il a dit pendant la Shoah ?
Non, il écrit un texte. Il y a tout un texte qu'il va écrire en septembre 1933, c'est-à-dire 8 mois après que Hitler ait été élu, mis au pouvoir en Allemagne, et 9 ans avant la Shoah. Il écrit un texte qui s'appelle Shofarot, c'est la dracha qu'il donne à Rosh Hashanah avant de sonner du shofar, dans lequel il explique que si on n'écoute pas l'appel d'Akadosh Baruch Hu de revenir, si on n'écoute pas l'appel national de revenir, alors on sera obligé d'écouter le coup de pied aux fesses qui va arriver par un monsieur qui s'appelle Hitler. C'est écrit noir sur blanc.
Là, ça commence à se.
C'est bidou. C'est là-bas. C'est là-bas. Oui, j'en ai parlé. D'accord. Betzeder. Alors allons-y. Koch ma'asav v'gid la'amor la'tet la'im la'chamem. Ma'ase yadav v'mit mishpat ne'emanim kol pikudav semuchim la'ad le'olam asuyim emet v'yashav. Pedut shalach le'amot tziva le'olam berito kadosh v'nora shemo. Tout ça, ce sont des versets de Tehilim qui viennent exprimer ce qu'il est en train d'expliquer, le retour de la lumière d'Israël. D'accord ? Ugvurat Elohe Olam, Elohe Israël, Adon Kol Haolamim, Mitbarechet, Umitgaberet, Betoafot, Ofotea, Beromemut Karnam Shel Israël. C'est-à-dire que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu se dévoile par l'intermédiaire d'Israël. Maintenant, l'inverse est vrai également. Eh oui, si la grandeur d'Akadosh Baruch Hu se dévoile par l'intermédiaire de la grandeur d'Israël, alors, entre grosses guillemets, la façon dont on perçoit la petitesse d'Akadosh Baruch Hu est de la même façon proportionnelle à la petitesse d'Israël durant son exil. Je vous rappelle ce que dit le prophète Yéhézkel dans le chapitre 36, lorsqu'il dit « Lo lemanchem ani ose bet Israël » C'est pas pour vous que j'emmène la Géoula. Et là, le Ma'an Shemi, Agadol, Mechulal Bagoïm. C'est pour moi que j'emmène la Géoula, pour mon nom qui est Mechulal Bagoïm. Il y a Chilul Hashem. Pourquoi ? C'est quoi le Chilul Hashem ? Lorsque les Goïm disent Am Hashem Ele, ou Me'arzo Yatsaou. Lorsque les Goïm vous voient en Chutzal Haaretz, ils disent bah, ça c'est le peuple de Dieu, ils sont sortis de leur terre. En d'autres termes, nous dit les Yechezkel Hanavi, le plus grand Chilul Hashem qui soit, c'est la galoute. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Am Israël, Bechutz al Haaretz, ze Chilul Hashem. Point. Même si tu es avec une longue barbe et un grand chapeau, c'est l'homme échané.
On ne peut pas donner de conseils à quelqu'un. On peut
dire
ce qu'il faut. Ah non, on ne dit pas ça.
Le problème, il est là, c'est que
nos
ancêtres sont fautés. Oui. Bon, Kadosh Baruch Hu, quand il les a exilés, il savait très bien où c'est que ça allait
amener.
Pendant 2000 ans, Kadosh Baruch
Hu, il était en exil. Bien sûr, tu as raison. Maintenant, il y a une différence entre le moment où Israël est bagalout et il ne veut pas y être, et il n'a pas le choix. Et le moment où Israël, il est bagalout et il veut y rester. C'est pas la même chose.
Quand tu goûtes à quelque chose en cuisine.
Ah mais je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes. Il n'empêche qu'à aucun moment tu peux venir et idéaliser l'exil.
C'est ce qu'on a fait tous, chacun. Chacun
à son tour. Donc nous dit ici le Rav Kook, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dépend de la grandeur d'Israël. Quand Israël est petit, donc crie Bagalout, eh bien, la grandeur de Dieu ne peut pas se dévoiler.
Donc, oui. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à nos ennemis, en somme, les ennemis qui nous trahissent Dieu, et tout ça, c'est grâce à ça que nous. Que Israël
revient. Mais ça, c'est que si on n'entend pas, comme on a dit, le grand chauffard et le moyen chauffard.
Mais moi, je crois aussi, il y a aussi la promesse qu'il a donnée à voté nous, Abraham et Sarah.
Mais tu n'as pas compris. De toute façon, il va nous ramener. Parce qu'il l'a promis, comme tu dis, Abraham et Sarah. La question, c'est est-ce qu'il va nous ramener dans le sens où il va nous faire comprendre qu'il faut rentrer et on va rentrer ? Ou alors, il y aura besoin d'un coup de pied aux fesses. C'est ça la question. Mais nous ramener, il nous ramènera. C'est vrai. Maintenant, là, ici, on ne parle pas de cela. On dit simplement que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dépend de la grande... Enfin, la façon dont on dévoile la grandeur de Dieu dépend de la grandeur d'Israël. Donc, si Israël est grand, on peut dévoiler Akadosh Baruch Hu en grand. Si Israël est petit, on ne peut pas dévoiler Akadosh Baruch Hu en grand. On le dévoile en petit. C'est pas shoot. Et quand Am Israël est-il petit? Ben, galoute. C'est simple. Non? C'est simple. C'est malheureux, mais c'est simple.
On est universel. La religion doit être universelle. Bon, quand il y a des nuances avec les Asiatiques. Mais on est quand même universel. Donc, finalement, la galoute a permis ce contact avec les goïmes et les goïmes. Peut-être quelque part, du mal est sorti un bien.
Ce que tu dis est tout à fait vrai. Mais j'allais dire, tu enfonces une porte ouverte. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a un rôle à l'exil. C'est évident. On aurait préféré ne pas y aller et on veut en sortir. Mais dès qu'on y est, c'est évident qu'on a un rôle à jouer et que l'exil a un rôle à jouer sur nous. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah l'ikut nitzotzot akedusha shayu betoch haklipa. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles de sainteté qui existent en exil qu'il faut délivrer également. Donc il y a un rôle, bien sûr, tu as raison. Mais c'est pas parce qu'il y a un rôle que ça devient l'idéal. D'accord ? Top. Alors allons-y. J'ai l'habitude de dire quand je suis avec des groupes, tu sais, il y avait un truc à l'époque, dans l'ancien monde, il y avait des touristes qui venaient en Israël. C'était dans l'ancien monde. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un temps que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'accord ? Hein, c'est ça.
Récemment, tu les as vus.
Ouais, pas. Non, c'est deux jours. C'était un soubresaut. Et quand il y avait des touristes, j'avais l'habitude de leur dire comme ça qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire du peuple juif? C'est. En fait, le peuple juif sont voués à être des guides touristiques. En fait, des guides touristiques. Eh oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? J'explique comme ça que Dieu, il a créé le monde, il a fait du beau boulot. Et une fois qu'il a terminé, il a dit franchement, il est bien mon monde, mais il est trop grand.
Il est
trop grand. Trop grand. Le mec qui habite en Australie, il n'ira jamais voir ce qu'il y a au Canada. C'est trop loin. Alors que faire? Eh bien, il a dit, je vais créer un musée du monde. Un endroit qui s'étend sur 400 km, comme ça c'est vite réglé. En une semaine, on peut le faire à pied. Où, finalement, je vais trouver tous les styles de mon monde. Voilà, tu vas dans un endroit où... En 2 heures de voiture, t'as tout passé. Tu veux un climat méditerranéen, va à Tel Aviv. Tu veux un climat d'Europe tempérée, de région montagnarde, va à Jérusalem. Tu veux un climat subtropical, va à En Gedi. Tu veux un climat désertique, va à Be'er Sheva. Tu veux un climat montagnard, va dans le Hermon. Tu veux un climat de plaine, tu vas dans Emek Israël, vers la ville là-bas de Afula. Tu veux
la plage,
on a déjà dit la plage, va à Elat. C'est-à-dire, donc tu as tout. Ah, c'est très bien, j'ai créé le musée. Le problème, c'est que dans ce musée vont venir des gens du monde entier. Il faut des guides. Tu veux qu'ils parlent les langues? Donc on envoie l'âme Israël. Dans toutes les galouillottes, ils apprennent la langue, et comme ça, ils peuvent revenir ensuite, kibbutz galouillot en Israël, servir de guide au monde entier pour leur faire visiter Israël.
Si tu veux, t'as publicité, quoi.
T'as vu?
Le poil au plan de la Terre. Ça va durer 2 générations, 3 générations.
Après, tu me casses mon truc, toi. Pourquoi tu me casses? Top. Yala. Revenons à nos moutons. Donc, ברוממות קרנן של ישראל ביסוד האומה היא זורחת ומופיעה בתאום גאולתה, היא חיה ומתעוררת. Donc, la grandeur d'Israël est en train de s'éveiller à elle, à Boré, à Yotzer, à Koré, kol yesh me'ayin, à noté tzafon al tau, asher beyado merkere aretz, ותואפות erim lo, מעונה אלוהי קדם. Tout ça, ce sont des terminologies qui sont reprises des versets. Ma'on ata italanu bedor vador, beterem arim yulado, vetocholel eretz vetevel, umeolam adolam ata'el. C'est quoi tout cela? Ça vient de dire que tout ce qui est en train d'arriver fait partie du plan de la création d'Akadosh Baruch Hu. Avant même que les montagnes n'aient été créées, la résurrection d'Israël était mise en place. Ok ? En d'autres termes, le retour d'Israël sur sa terre est une nécessité de l'histoire et pas une éventualité de l'histoire.
C'est-à-dire que c'était déjà préconçu. C'est-à-dire, c'est dans le Tochnit.
Bien sûr.
Soit exilé, comme on a été exilé à l'époque que Jacob est descendu en Égypte, qu'on devienne un peuple.
Et qu'on sorte.
Et qu'on sorte d'Égypte. Pour venir sur cette terre bénie.
Et dévoiler la grandeur de Dieu.
Et qu'on ressorte après la destruction des deux temps.
Ah, exil. Encore une fois, est-ce que l'exil, ça doit forcément être quelque chose de terriblement terrible? C'est la question.
La graine de maïs qui pourrit avant de...
Est-ce qu'on est obligé de passer par ça ou pas?
Ben oui.
Non, on est passé par ça. La question, c'est est-ce qu'on était obligé de passer par la Pouranout?
C'est ce que je pose comme question. Apparemment, oui.
Non, parce que là, il parle uniquement de la nécessité de la résurrection. Mais est-ce que, avant la résurrection, il devait y avoir une destruction terrible, ou alors est-ce que ça pouvait être simplement une, comment dire, un mise en coma artificiel pour préserver? Par exemple, lorsque Yaakov part en exil en Égypte, il n'y a pas encore la servitude terrible qu'on va lire dans notre paracha, là, de paracha de Shemot. Yaakov, ça se passe plutôt tranquillement en Égypte. Alors évidemment, il n'a pas sa grandeur d'Israël, il est les aurait ramenés en terre d'Israël et la résurrection d'Israël se serait faite sans passer par la destruction totale.
C'est
ce que je te dis. On n'était pas obligé de passer par le mauvais.
Il fallait peut-être plus de temps pour récupérer toutes les
affaires. Ça, c'est déjà des plans qui sont au-delà de moi.
Je vais être un tout petit peu long, mais pas beaucoup.
Vas-y.
Le but du Ram d'Israël, c'est de faire connaître Akadosh Baruch Hu au monde entier. C'est vrai. Or, le plan d'Akadosh Baruch Hu, de se faire connaître, il a fait un pari avec l'humanité, d'après ce que je pense. Il a pris le peuple le plus petit, mais il n'a même pas une terre, puisqu'il a la Nahalat Goyim, il a fallu qu'on prenne la terre de quelqu'un d'autre, pour prouver au monde qu'il existe, par notre présence. Voilà ce que je pense. Et donc, c'est un formidable. Un jeu formidable qu'il a pris par rapport à la science. Et regardez, si vous voulez pas croire que moi j'ai pris le plus petit qui n'a même pas de terre et malgré ça,
tu as raison.
Suivant ce qui se comporte, je l'envoie en exil, etc.
Tu as raison, je signe. J'ai affaire, Marie. Alors allons-y. Vetiferet el zot keter malchut Elohim chaim beYisrael isheruya. Keter Malchut Elohim Chaim. C'est quoi? La couronne vivante d'Akadosh Baruch Hu. Beisrael Ishruya. C'est-à-dire, qui est censé représenter Malchut Hashem? Am Israël. Ein Am Velashon Baolam Sheyechol Leagot Beruchho Emet Choderet Tevel Umlea Zot. Personne d'autre ne peut dévoiler Malchut Hashem. Nachon. Voilà, vous voulez savoir quel est le rôle du peuple juif? C'est de proclamer Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Voilà le rôle du peuple juif, tout simplement. Ad matai uzzecha bashevi vetifartecha beyatzar. Verset qu'on lit dans la Megillah de Echa. Ad matai. Ta puissance, jusqu'à quand elle sera en exil? Ad matai vetifartecha beyatzar. Orera gevuratecha el Elohim Elyon. Lifnei Ephraim u'Benyamin u'Menashe orera et gevuratecha lecha lishuata lan. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de dans le verset de Ephraim, Benyamin u'Menashe? Donc c'est les enfants de qui ces gens-là?
Yosef.
Non.
Ephraim,
Benyamin. Mais il y a Benyamin aussi.
Benyamin.
Il y a Ephraim, Benyamin ou Ménaché?
Qui ne se sont pas prosternés, qui se sont. Ben Benyamin.
Binyamin, c'est pas vrai. Tu peux pas, à chaque fois, tu dis vrai pour un des trois, mais pas pour les trois. C'est quoi le point commun entre les trois? Merci. Ce sont les enfants de Rachel. C'est les enfants de Rachel. Binyamin et les deux enfants de Yosef sont Shifter Rachel. Or, Rachel, c'est quoi son truc? Veshavu banim v'gvulam. Bien sûr, de ramener tout le monde à la maison. C'est ça le rôle de Rachel Imenu.
Orera s'est réveillé. Hein.
Ouais.
Orera est pour la terre.
Tout à fait. Oshia et amecha upade goy ve elohav upada tifde ki goel chazak ata. C'est ata mevi geoula. Lama ki ata goel chazak. C'est quoi goel chazak? C'est son boulot. C'est ça que tu fais, Dieu. Ata mevi geoula laola. C'est ça. Non, ça veut dire, c'est, t'as raison, qui d'autre à part lui? Mais ce que ça veut dire ici, c'est que c'est ça son rôle principal. Comment Dieu se dévoile? Bah, Olam, bah, Géoula.
Oui, c'est justement.
Regarde, attends, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu as entendu parler d'une forme géométrique qui est composée de deux triangles superposés l'un sur l'autre? Ah, Magen David,
d'accord.
Il dit le losange. Qui a dit le losange? Hein, franchement. Il y a un homme qui s'appelait Franz Rosenzweig. Il venait de l'Algérie du Sud, comme son nom l'indique, bien sûr. Hein, un Allemand. Franz Rosenzweig a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'étoile de la rédemption. Die Star von der Geula. La folie. Maintenant, 600 pages en hébreu. Aux éditions Bialik. C'est pas mal. 600 pour le kiff. Maintenant, comment est fait le livre? Il est fait de trois grandes parties. Trois grandes parties, et au début de chaque partie, il dessine un dessin pour expliquer de quoi il va traiter dans la partie. Dans la première partie, il dessine un dessin qui représente un triangle qui a le spitz vers le haut. Dans la deuxième partie, il dessine un triangle qui a le spitz vers le bas. Et dans la troisième partie, il réunit les deux triangles et ça nous donne, je vous le donne en mille, Magen David. Ma Corée, qu'est-ce qui a marqué dans toutes ces choses? Eh bien, d'un côté, il y a à Adam, dans le triangle avec le spitz vers le haut, à Adam, à Olam, et Dieu. L'homme, le monde et Dieu. D'accord? Qu'est-ce qui fait le lien entre Dieu et l'homme? La prophétie. Ok? Donc c'est le coin là-bas du triangle. Qu'est-ce qui fait le lien entre Dieu et le monde? La création. Donc le triangle là-bas. Et qu'est-ce qui fait le lien entre l'homme et le monde? La Géoula. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on est en train de dévoiler ici. Orera gevoatecha el elion. Mifnei Ephraim Benyamin Menashe orera gevoatecha velecha yishuat ralanu. Arshia et amecha opada goy veloav, pado tifde, ki goel chazak ata. Ki bechol chachme agoyim, ubechol malchutam, meen kamocha. Meen kamocha Hashem gadol ata, ugadol shimcha bagevura. Mais c'est gadol shimcha bagevura dafka. C'est quoi la Gevura d'Akadosh Baruch Hu? On l'avait déjà expliqué. C'est de laisser la place à l'homme. Le Tzimtzum. De laisser la place à la création. Mi kamocha chassin ya ve'emunatecha sevivotecha. Vous comprenez qu'ici, le Rav Kook, tout ce qu'il a expliqué, en fait, il l'exprime par des versets. C'est-à-dire qu'en fait, si tu savais étudier la Torah, quand tu lis ces versets-là, tu comprends le Rav Kook. C'est ça. En fait, tu n'as pas besoin du Rav Kook. Il suffit de lire la Nevoa. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Ata Moshel Begeout Hayam. Be Shova Galav Atat Shabbecham. Ata Dikita Kechalal Rahav. Be Zera Ozecha. Pezarta Oyevecha. Lechash. Hein? Chassin Ya. Mazé. Mika Mocha. Chosen. Chez Lia, la puissance, la force de Yah. Lecha shamaim af lecha aretz. C'est à toi le monde entier, le ciel et la terre. Tevel umloa atayesadetam. C'est toi qui gères tout cela. Tsafon veyamin ata beratam. Tavor vechermon sicha bemesher yiranenu. Ki la Hashem maginenu. Lekedosh Israel malkenu. Qui est Kol Eloé Amim Elilim Vehashem Shamaim Asa. En fait, ici, le Rav Kook dit quoi? En citant tous ces versets, il nous dit que dans la mesure où Kadosh Baruch Hu, c'est lui le patron de ce monde, eh bien, ça veut dire que tout ce qui se passe dans ce monde dépend de lui. Et donc, la résurrection d'Israël qui est en train de se mettre en place à son époque est évidemment l'expression de la volonté du Créateur. Pashut. Et ça vient répondre à toutes les personnes qui pourraient prétendre que dans la mesure où le sionisme n'a pas été fait par des gens avec des kippotes, ce qui montre d'ailleurs l'ignorance totale de ces gens qui parlent, mais l'homme échané, il y a des gens qui disent « Non, mais ça, c'est pas l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'œuvre du Satan, l'œuvre de la Sitra-Ra. » Ou alors, simplement, c'est, y a pire. C'est l'œuvre des forces obscures. Hein? Et il faudrait, Chas v'Shalom, que tout ceci disparaisse pour pouvoir construire eh bien, l'État messianique tel qu'on l'entendrait. Eh bien, c'est une erreur fondamentale.
Voilà. Détruire Tel Aviv, quand même.
Hein?
Détruire Tel Aviv,
c'est évident. Bah, ce serait dommage. Ce serait dommage. C'est-à-dire, en malasot. En malasot. Agave, je tiens à rappeler dans les quelques minutes qui nous restent que c'est ce qu'on a lu il y a à peine trois jours dans le Daf Hayomi, dans la Gemara, dans le traité de Megillah. On nous raconte l'histoire que l'ange, lorsque l'ange est venu se dévoiler à Yehoshua pendant la nuit, Yehoshua lui a donné le shalom. Et la Gemara pose la question, elle dit comment ça se fait qu'il a donné le shalom à quelqu'un dans la nuit? Alors on ne donne pas shalom à quelqu'un, balayla. Pourquoi? De peur qu'il s'agisse d'un démon. Et tu ne veux pas donner de la force à un démon le soir. Et la Gemara répond, non mais comme il a dit ce personnage, il a dit Aniba Beshem Hashem, alors je savais que ce n'était pas un démon parce que les démons ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Il n'évoque pas Dieu. Donc je sais que ce n'était pas un démon, donc je pouvais lui dire shalom. Eh bien, c'est ce qu'a répondu le Rav Shlomo Goren lorsque des gens ont essayé de dire que David Ben Gurion, c'était les forces du démon. Il a répondu Aval Yadua Bagemara She'en Shem Shamaim Shagur Befi Ashed. Or, David Ben-Gurion, dans la déclaration d'indépendance, il a dit « Bebitachon Betzur Israël ».« Betzur Israël » c'est « Shem Shamaim ». Mais la reine, s'il a évoqué le nom de Dieu, c'est que ce n'est pas un démon. Donc on peut lui donner le shalom.
Il ne savait pas.
Hein? Si, si, lui il savait. Lui il savait, bien sûr qu'il savait. Je te rappelle, et je termine par là, rappelle-toi qui est le très très grand copain de David Ben-Gurion à ce moment-là. Quand je te dis vraiment copain, c'est vraiment copain.
Même
chez
non.
Non. Non, d'accord, il a étudié à Shiva, ça ne veut pas dire qu'il a tout étudié. Mais je veux dire, il est constamment en contact avec quelqu'un qui va d'ailleurs s'asseoir à sa gauche. À sa gauche, dans la déclaration d'indépendance. Il y a Ben-Gurion et à sa gauche, il y a qui? Oui, le Rav Maimon Leiva Cohen Fishman.
Celui qui a la jambe cassée.
Non, je n'ai pas la jambe cassée. Le Rav Fishman, bon, il est plutôt jeune, donc il a une canne, mais il n'est pas, voilà. Et le Rav Fishman, c'est lui qui va lui souffler lorsqu'il y a la grande marloquette. Est-ce qu'on met le nom de Dieu ou pas dans la déclaration d'indépendance? Il lui dit, regarde, on va mettre un nom de Dieu que les Chilonim ne connaissent pas. Toi, tu connais. Je sais que tu connais. Mais eux, ils ne connaîtront pas, ils ne vont pas nous faire des problèmes. Ce sera Tsur Israël. C'est-à-dire, le Rav Fishman et Ben Gurion étaient vraiment copains, à tel point que, bien avant la déclaration d'indépendance, ils se retrouvent tous les deux à New York pour plaider la cause du sionisme, et leurs deux femmes respectives sont enceintes à ce moment-là. Et ils se font une promesse, tous les deux, que si c'est une fille, les deux l'appelleront Géoula. Eh bien, ce sera tous les deux une fille, et les deux l'appelleront Géoula. Hazak ou Balzac.